vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Mario Golf Super Rush. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Arcadegeddon. On aura ensuite une petite news technologie avec les voitures volantes qui arriveraient dans les villes d'ici 10 ans, selon le PDG de Hyundai. Et on finira l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec Mario Golf Super Rush. Donc c'est un jeu vidéo de golf, c'est étonnant, de la série Mario Golf, qui est jouable de 1 à 4 joueurs, développé par Camelot Software Planning et édité par Nintendo, et qui est sorti partout dans le monde le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch. Cet épisode a pour particularité de permettre de choisir entre des contrôles classiques avec les boutons ou des contrôles par mouvement avec le Joy-Con. Le jeu inclut également un mode inédit où 4 joueurs jouent en même temps en courant à travers la carte, ainsi qu'un mode histoire avec un aspect RPG. Le jeu est classé PEGI 3 et il obtient la note de 14 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 5 sur 10 de la part de Gamecult. Donc voilà des années que Mario s'octroie souvent des stages de remise en forme pour se changer de son quotidien héroïque. Cette fois, il revient à l'un de ses premiers amours sportifs, le golf, car voilà 7 ans que le plombier moustachu n'avait pas manié le club sur le green. Pour corriger le tir, il revient donc avec Mario Golf Super Rush en exclusivité sur Nintendo Switch. Donc Mario Golf Super Rush fait suite à la longue lignée de jeux où Mario et ses amis s'amusent sur le green. Et après le sympathique Mario Golf World Tour sur Nintendo 3DS, les attentes sont de mise pour cet épisode sur Switch, surtout qu'il embarque une campagne solo avec des éléments de RPG, comme à l'époque des opus Game Boy Color et Advance. C'est d'ailleurs sans doute par cette porte que vous débuterez votre carrière dans ce Mario Golf. Alors commençons par là. Let's go, comme on dit dans le métier. Donc pour le coup, le solo du titre ne fait pas dans l'originalité et ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande. Après avoir créé votre Mi, vous êtes lâché dans le village d'Erascot en tant que nouvelle recrue d'une équipe prometteuse. Vous y apprendrez les bases de Mario Golf Super Rush et gagnerez vos premières compétitions avant de monter en grade et d'obtenir un badge qui vous ouvrira les portes de destinations inédites. Pour annoncer la couleur de suite, ne vous attendez pas à une campagne débridée avec un tas de quêtes annexes à la Golf Story. Que ce soit au niveau de l'écriture ou de la progression, le solo de Super Rush reste très sage de bout en bout. Sur la dizaine d'heures de durée de vie, vous enchaînerez presque uniquement les terrains entre 3 et 18 trous, seul ou à plusieurs, avec parfois la lourde tâche de refaire une compétition de 40 minutes si vous n'êtes pas arrivé premier. Bien sûr, Nintendo distille les nouveaux modes et quelques surprises au fil de la progression, mais rien qui ne permet d'être véritablement enthousiaste après avoir bouclé l'aventure. Que les puristes se rassurent, le challenge est toutefois de mise lors de la campagne et il faudra souvent se concentrer pour ne pas perdre un tournoi. Donc pour être plus précis, dans le mode solo de Mario Golf Super Rush, vous traverserez au total 5 zones distinctes. Chacune dispose de son propre parcours à 18 trous, dont un bonus sur Erascot réservé aux novices. Des parcours que vous aurez tout le loisir de découvrir lors des compétitions, obligatoires pour progresser, mais qu'il ne sera pas possible d'arpenter librement à pied, juste pour le plaisir de taper la balle. D'ailleurs, à propos d'exploration, c'est un aspect assez limité de la campagne de Mario Golf Super Rush. Alors oui, vous pourrez vous déplacer librement et parler à de nombreux PNJ, mais il n'y a pas grand-chose à y voir ou à y faire. Les habitants ne vous donneront aucune quête annexe et votre seul objectif sera systématiquement indiqué par une bonne grosse flèche rouge. Pour ne rien arranger, la dimension RPG de ce mode est plutôt pauvre, se limitant à répartir des points d'expérience selon vos caractéristiques et à l'achat de quelques clubs et tenues qui vous donneront des petits bonus passifs. Et encore, il faut souvent avoir le dictionnaire du parfait golfeur sous les yeux pour comprendre leurs effets, aussi discret soit-il, donc c'est un petit peu dommage. Heureusement, le gameplay de base de Mario Golf est toujours aussi solide, suffisamment pour passer outre l'enrobage un peu léger du solo. Donc contrairement à Everybody's Golf et Golf Story, les frappes de balles de Super Rush ne se déroulent pas en 3 temps, mais en 2. Donc la première pour débuter le coup et la seconde pour l'arrêter, une fois la puissance choisie. Mais ce n'est pas permissif pour autant. Pour ajouter de l'incertain dans vos lancers, le sommet de la jauge de puissance affiche désormais une zone de contrôle de balle qui déviera légèrement et aléatoirement votre lancer si vous validez un coup dans cette zone. En gros, selon plusieurs facteurs, plus vous frapperez fort, plus vous perdrez en précision. Pas de panique, Les moments où ce nouvel élément de jeu se fait vraiment ressortir sont rares, et la partie ne devient pas aussi aléatoire qu'un lancer de dés. Le contrôle de balle n'a jamais paru injuste, et comme d'habitude, il faut toujours prendre en compte le vent et l'inclinaison du terrain. Et ce n'est pas la seule nouveauté qui vient légèrement changer le gameplay de ce Mario Golf. Le système précis des précédents épisodes pour donner un effet a été remplacé par quelque chose de plus ludique. Désormais, il suffit d'orienter le stick dans la direction souhaitée lorsque votre personnage s'apprête à frapper, juste après avoir choisi la puissance du coup. Et il est même possible d'imprimer jusqu'à 4 effets à plusieurs moments du lancer. Enfin, d'autres ajouts sont au rendez-vous pour aider la lecture du jeu, comme la présence du green et du drapeau sur la jauge de puissance. L'inclinaison de cette dernière en terrain penché pour signifier l'effet que prendra alors naturellement votre coup, ou un scanner flambant neuf qui permet d'avoir des informations sur le terrain à distance. Le gameplay de Super Rush est certes plus accessible, mais toujours exigeant. Donc ce Mario Golf intègre la possibilité de jouer directement avec le gyroscope des Joy-Con, comme à la bonne époque de Wii Sport, ce qui modifiera pas mal de choses sur la manière d'aborder les parties. Donc tout d'abord, avec le motion gaming, il n'est pas possible de choisir au millimètre près la puissance de son coup, ce qui fera logiquement perdre de la précision à vos lancers. Pour changer votre swing avant de frapper, il est toutefois possible de faire autant d'essais que possible, afin de voir comment vos mouvements réels seront retranscrits par la jauge de puissance. Le tout fonctionne plutôt bien, mais il est arrivé d'être surpris par l'exécution d'un tir, l'interface de Mario Golf Super Rush manquant d'indicateurs et de repères pour rendre compte de la puissance de vos bras en jeu. Surtout que le motion gaming fait l'impasse sur quelques subtilités de jeu présentes en mode manuel, comme les coups spéciaux qui permettent de faire atterrir une balle à un endroit très précis, les topspin et backspin pour accentuer ou diminuer le rebond d'une balle. Sans oublier les effets retranscrits assez aléatoirement par l'orientation de vos gestes, donc pas de quoi gâcher les parties en famille, mais notez toutefois qu'il n'est pas possible de faire la campagne en motion gaming, ni de mélanger les deux contrôles dans une même partie. On en arrive désormais au principal argument de ce Mario Golf Super Rush, le Speed Golf, déjà présent dans World Tour, mais ici sous une autre forme. Avec ce mode, vous devrez terminer le parcours le plus vite possible pour remporter la victoire, et surtout rejoindre votre balle à pied après chaque lancer. Pour ce faire, une barre d'endurance vous permet de courir et d'activer un boost pour être encore plus rapide, ainsi que renverser vos adversaires. Afin qu'elle se remplisse de nouveau, il faudra réduire son allure ou bien ramasser des cœurs sur le grid. Sur ce dernier, vous trouverez aussi des pièces, utiles pour faire grimper votre barre de spécial et activer une super frappe. Une frappe qui est d'ailleurs surtout pratique en speed golf, car très précise, rapide et capable d'envoyer les balles adverses dans le décor. Le coup sera différent en fonction du personnage et pourra par exemple créer un écran de glace au sol. Donc dans les faits, le mode est plutôt agréable, il faut être à la fois méticuleux et rapide et parfois faire le filou avec ses ennemis pour tenter d'arriver en premier. C'est donc une belle manière de mettre à profit le gameplay de base assez exigeant de Mario Golf, mais on est loin de l'idée de génie qui vous encouragera à jouer encore et encore. Même constat pour le mode Golf Melee où il faut réussir 3 trous le plus vite possible sur 2 cartes remplies d'obstacles. En comptant Golf Standard en marge de la campagne, vous trouverez donc dans Mario Golf Super Rush 3 modes de jeu distincts à faire seul ou contre les intelligences artificielles, ou même à plusieurs en local et en ligne. Mais on sent que c'est Speed Golf qui a la cote, si bien que son système de déplacement est mis en avant à outrance dans la campagne solo, même si vous êtes face à vous-même et qu'il n'y a pas de limite de temps particulière. Détail rigolo d'ailleurs en campagne, si vous portez trop de clubs, vous courrez moins vite sur le grid, ce qui est logique. Pour terminer, quelques mots sur la réalisation du titre, et que ce soit sur la technique pure, les animations, la bande-son ou les choix artistiques, Nintendo livre un travail en dessous de ses standards habituels. Les différents parcours et villages rencontrés lors de la campagne sont certes colorés, mignons et agréables à regarder, mais on ne peut pas s'empêcher de ressentir un manque de diversité dans les environnements proposés. Sans parler de l'aliasing qui est très présent en mode portable et qui ne se fait pas non plus discret en docké. Même chose pour les animations, assez pauvres, sans véritable ressenti de puissance au moment de préparer son coup avec les contrôles manuels. On a aussi des personnages qui disparaissent à la fin d'un terrain au moment de célébrer la victoire, etc., etc. Donc un ressenti qui peut au final s'appliquer à Mario Golf Super Rush dans son ensemble. Les bases sont là, ça fonctionne bien, mais ça manque de matière pour véritablement marquer les esprits. Donc pour les points forts du jeu, on a un gameplay plus accessible, mais toujours aussi solide, l'excitation qui est intacte au moment de réaliser un joli tir, on a une campagne agréable quoique trop simpliste, environ 10 heures de jeu, On a le motion gaming qui est parfait donc pour les parties en famille et le speed golf qui est simple, fun et efficace. Pour les points faibles, on a une campagne qui se repose sur ses lauriers, un manque de diversité pour les parcours, un petit manque de contenu au global et une réalisation en retrait. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter tout de suite une musique extraite de l'OST du jeu Mario Golf Super Rush, c'est Bonnie Greens, donc du mode speed golf, et on revient juste après. Donc c'était la musique Bonnie Greens du mode Speed Golf, une musique extraite de l'OST du jeu Mario Golf Super Rush. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Pour une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place est Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En deuxième place, Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5, un jeu de Sony. Et en première place est donc Mario Golf Super Rush sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Spider-Man Miles Morales, en deuxième place c'est Scarlet Nexus et en première place Ratchet & Clank Rift Apart. Pour la Xbox Series, en troisième place on a Alex Kidd in Miracle World DX, en deuxième place c'est Assassin's Creed Valhalla et en première place Scarlet Nexus. Pour la PS4, on a en troisième place Scarlet Nexus, en deuxième place The Last of Us, la partie 2 et en première place FIFA 21. Pour la Xbox One ensuite, on a en troisième place Forza Horizon 4, en deuxième place FIFA 21 et en première place Cyberpunk 2077. Pour la 3DS ensuite, on a en troisième place Super Mario 3D Land Select, en deuxième place Pokémon Soleil et en première place Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Select. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en troisième place les Sims 4, l'édition standard. En deuxième place, Dungeons & Dragons Dark Alliance, l'édition Steelbook. Et enfin, en première place, Microsoft Flight Simulator. Voilà, on passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc le State of Play de Sony, diffusé hier, jeudi 8 juillet, a permis de mettre sur le devant de la scène un tout nouveau titre du nom d'Arcadegeddon. Résolument multijoueur à l'esprit déjanté et déjà disponible en Early Access, le nouveau titre d'Ilphonic se dévoile avec un premier trailer explosif. Donc le multijoueur d'Ilphonic en a fait sa spécialité. Voilà, il y avait une virgule, donc du coup ça ne s'est pas senti. Le multijoueur, c'est la spécialité de Ilphonic, du coup voilà. Donc le studio est notamment connu pour avoir créé Friday the 13th The Video Game, au concept asymétrique qui avait franchement bien fonctionné. Plus récemment, on lui doit aussi Predator Hunting Grounds, un titre également multijoueur, intéressant mais plus bancal sur bien des points. Ce dernier avait notamment été développé en partenariat avec PlayStation, un partenariat qui se voit ici renouvelé pour un tout nouveau projet du nom d'Arcadegeddon. On quitte là les ambiances sombres et les coulées d'hémoglobine pour un ton autrement plus joyeux, dans une direction artistique ultra édulcorée. Donc voici le pitch officiel. Jilly est le propriétaire d'une salle d'arcade qu'il essaie de sauver des griffes d'une méga corporation anonyme. Pour ce faire, il combine tous les meilleurs jeux d'arcade existants pour créer un super jeu, mais malheureusement, la méga corporation Fun Co. Pirate le jeu et y injecte un virus. Vous et vos amis devrez donc sauver le jeu et la dernière salle d'arcade de la ville. Donc, Arcadegeddon mélangera donc de grandes phases de shoot, de plateforme ou encore de combat au corps à corps, au sein de parties en coopération, mélangeant donc le joueur contre joueur et le joueur contre l'environnement, PVP et PVE. Un énorme fourre-tout complètement délirant qui s'offre ici un premier trailer que vous pourrez donc trouver facilement sur internet, appuyé par la musique du producteur de bass music Getter. Notons que le soft est d'ores et déjà accessible via un accès anticipé sur PlayStation 5, et ce pendant les 7 prochains mois. Des mises à jour saisonnières sont prévues ainsi que de nombreux patchs pour corriger et équilibrer l'expérience. Donc si vous êtes intéressé et que vous possédez la machine de Sony, il ne tient donc plus qu'à vous d'aller faire un tour dans le PlayStation Store pour télécharger cet Arcadegeddon frais comme un gardon. Alors, on passe maintenant à la news technologie. Donc même avec toutes les avancées récemment réalisées en matière de technologie et d'ingénierie, les voitures volantes ne font pas encore partie de notre quotidien. Donc certes, il existe de nombreux prototypes de véhicules volants, mais les utiliser dans la vie de tous les jours semble encore appartenir à l'univers de la science-fiction ou à un futur très lointain. Mais selon le PDG de Hyundai, ce futur ne serait pas si loin que ça. Donc Michael Cole, directeur général des opérations européennes du constructeur automobile sud-coréen Hyundai, a déclaré que les voitures volantes feront partie de notre quotidien d'ici 10 ans. Je cite... Nous pensons que d'ici la fin de cette décennie, la mobilité aérienne urbaine offrira certainement une excellente opportunité de désengorger les villes, d'aider à réduire les émissions, qu'il s'agisse de mobilité intra-urbaine dans les airs ou même entre les villes, a-t-il déclaré donc au cours de la conférence de la Society of Motor Manufacturers and Traders. Donc, s'il est si confiant et si optimiste sur le sujet, c'est parce que Hyundai développe actuellement un véhicule volant, donc plus précisément un taxi volant, en collaboration avec Uber. Donc, les premiers prototypes de ces véhicules ont été présentés au public en 2020 lors du Consumer Electronics Show. Donc, il faut également savoir que Hyundai est actuellement impliqué dans la conception du premier aéroport britannique sans piste d'atterrissage a rapporté The Guardian. Donc un tel aéroport sera destiné aux véhicules volants avec atterrissage et décollage en vertical. Donc quant à savoir si nous verrons des voitures voler dans nos rues en 2030, seul le temps nous le dira. Donc je précise quand même que Hyundai n'est pas le seul grand optimiste sur ce sujet, puisque selon la société allemande de taxis aériens Lilium, les véhicules volants feront partie de notre vie quotidienne dès 2025. Voilà, dépêchez-vous, il vous reste plus que 4 ans. Voilà, on va finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc c'est l'été, il y a un petit peu moins de jeux. On a eu quand même 2 sorties aujourd'hui, vendredi 9 juillet, avec Monster Hunter Stories 2 Wings of Rin sur PC et Nintendo Switch, et Swords of Legends Online qui est sorti sur PC. Pour mardi 13 juillet, on aura la sortie de Where the Earth Leads sur PS5 et PS4. Pour mercredi 14 juillet, ça sera Blake the Visual Novel qui sortira sur PC. Et enfin, les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 15 juillet avec Space Jam A New Legacy, qui sortira sur PC, Xbox Series et Xbox One. On aura aussi Space Jam A New Legacy The Game sur Xbox Series et Xbox One. On aura Warhammer 40 000 Battle Sector sur PC, PS4 et Xbox One. Lost at Sea sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin, on aura Train Life A Railway Simulator qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.